Bonjour à chacun. C'est un plaisir encore une fois d'être avec vous ce matin, comme chaque dimanche, de pouvoir se rassembler, être ensemble pour louer Dieu et aussi pour ouvrir sa parole et essayer de comprendre un petit peu ce qu'elle nous dit et ce que Dieu lui-même veut nous dire ce matin. Vous souvenez-vous, dans votre enfance, quand vous étiez encore chez vos parents, et que vous entendiez souvent des phrases telles que « Viens mettre la table, va ranger ta chambre, viens accomplir ta tâche ménagère, va faire tes devoirs, etc. etc. » On en a tous entendu certainement ce genre de phrases. Quelle était notre réponse à ces phrases-là ? « Oui, maman chérie, j'arrive tout de suite. » Bon, une fois peut-être, deux peut-être. Puis petit à petit, on s'agace, on a des réponses un peu automatiques, peut-être. Dans ma famille, avec mon frère et ma sœur, petit à petit, il y a une réponse automatique qui est rentrée en jeu, c'était « j'arrive ». Tout simple, hein. Viens mettre la table, j'arrive. Et puis au début, ça avait du sens, parce que c'était justement « viens faire quelque chose », donc oui, j'arrive pour faire cette chose-là. Et puis, petit à petit, c'est un peu la réponse automatique qui est rentrée en jeu et puis qui n'avait plus tellement de sens selon ce que nos parents nous demandaient. Alors, ça avait l'art d'agacer beaucoup mon père, qui, quand il nous disait, par exemple, « Arrête de regarder la télé, oui, j'arrive, ça n'a pas de sens. » Il disait « Mais je veux pas que t'arrives, je veux que t'arrêtes de regarder la télé. » Ça agaçait aussi ma mère quand on disait « Oui, j'arrive, j'arrive » et puis qu'on arrivait au bout de 5-10 minutes et que le repas était déjà à moitié froid. Et je pense que ce genre de réponse automatique, c'est « j'arrive », ne s'arrête pas seulement après l'enfance, on ne devient pas tellement plus sage en fait après, mais on continue d'avoir des « j'arrive » dans notre vie, quand on fait des promesses à des amis, à des collègues, au boulot, de ce qu'on va faire bientôt, de ce qu'on va bientôt se voir, on va bientôt faire quelque chose ensemble, et puis ces « bientôt » s'éternisent un peu, prennent du temps, et puis finalement on est dans ces « j'arrive » qui n'arrivent pas en fait. Et ces « j'arrive » aussi sont aussi présents dans notre relation avec Dieu, je crois. En tout cas, moi, je le vois dans ma relation à Dieu. Parfois, ma réponse automatique, c'est « oui, j'arrive ». Et puis finalement, est-ce que j'arrive ? Bah, peut-être après quelques années de décalage, ou peut-être jamais aussi. Bien, ce matin, je vous propose de lire un texte de la Bible qui va toujours nous faire continuer d'avancer dans cette thématique du royaume de Dieu qu'on évoque depuis longtemps et qui s'arrête bientôt pour ceux qui en ont marre. Mais on reste encore dans cette thématique-là, avec justement la réponse d'un homme à l'appel de Dieu. On a beaucoup été dans le Nouveau Testament ces dernières semaines. On va revenir un petit peu dans l'Ancien Testament pour ce matin, en lisant Ésaïe au chapitre 6. Et on va lire les versets 1 à 8. Ésaïe 6, les versets 1 à 8. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur siégeant sur un trône très élevé. Les pans de son vêtement remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Chacun d'eux avait 6 ailes. 2 ailes pour se couvrir le visage, 2 autres pour se voiler le corps, et les 2 dernières pour voler. S'adressant l'un à l'autre, ils proclamaient « Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées célestes. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les montants des portes du temple se mirent à trembler au son de ses voix, tandis que le sanctuaire se remplissait de fumée. Je m'écriais « Malheur à moi, je suis perdu !» car j'ai les lèvres impures, et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et voici que de mes yeux, j'ai vu le roi, le Seigneur des armées célestes. Alors l'un des séraphins vola vers moi. Il tenait à la main une braise qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il m'en toucha la bouche et me dit, « Maintenant que ceci vient d'être appliqué sur tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. » Et j'entendis alors le Seigneur qui disait, « Qui enverrai-je ? Qui marchera pour nous ?» Alors je répondis, « Me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. » De nouveau, ce texte commence avec une vision majestueuse du grand roi, ce grand roi que nous, duquel nous parlons depuis plusieurs semaines, ce roi majestueux. Mais ce roi, il est sur son trône. Il siège, il règne, il est sur un trône. J'espère qu'après ces quelques semaines sur la thématique du royaume, vous êtes convaincus aujourd'hui, si vous ne l'étiez pas avant, que ce Dieu est roi. Il est roi du royaume, il siège, il trône, il a toute autorité. La Bible vraiment ne laisse aucun doute par rapport à cette caractéristique de Dieu. Pas un seul verset qui pourrait nous faire comprendre qu'à certains moments donnés, il est peut-être moins roi qu'à d'autres. Non, c'est un Dieu qui est roi, qui règne à chaque instant et avec tout le temps la même autorité et la même puissance. Dans ce texte, on voit encore un élément supplémentaire qui nous montre la royauté, le règne de Dieu, et ce sont les séraphins. Quand on parle de séraphins, on voit peut-être dans la tête des petits angelots avec des ailes, donc des petits anges sous forme humaine. Mais en fait, le mot séraphin est un petit peu compliqué dans la Bible à comprendre exactement ce que sont ces êtres. En fait, ce mot, c'est le même qui est utilisé à un autre passage dans la Bible, qui est celui de la période pendant laquelle le peuple est dans le désert. Et puis, il y a une attaque de serpents brûlants, enfin de serpents qui mordent. Et puis, c'est aussi le même mot qui est utilisé pour ces serpents-là que dans notre texte aujourd'hui pour les séraphins. Donc, on peut imaginer quelque chose plutôt sous la forme de serpent. Alors, est-ce qu'il faut comprendre qu'au paradis, autour de Dieu, il y a des serpents avec six ailes qui volent? Ça devient un peu étrange comme vision. C'est intéressant de savoir qu'en Égypte, à l'époque, le serpent était devenu petit à petit un signe, tout simplement, entre guillemets tout simplement, mais pour notre texte, ça en revient à dire ça, de royauté. En fait, le serpent était devenu le signe des pharaons, le signe des rois. Si vous cherchez un petit peu dans l'archéologie de l'Égypte, ou peut-être vous avez même ces images en tête, on voit des sarcophages ou bien des statues à l'effigie des pharaons avec des grands chapeaux, et puis des fois un petit serpent devant, comme ça vous avez peut-être déjà vu ça, un petit serpent devant le chapeau, hein, parce que c'était le signe de la royauté et en même temps d'une royauté qui était presque divinité, un roi-dieu. Et puis ce signe du serpent comme roi, comme presque divinité, avait été aussi repris malheureusement dans le royaume du Nord, en Israël du Nord, quand le peuple s'était petit à petit détourné de Dieu, avait commencé à adorer d'autres divinités. Ben, on a retrouvé des serpents aussi dans les sanctuaires, dans les lieux réservés à l'adoration. Donc le serpent avait vraiment cette image de roi, de Dieu, alors qu'il pouvait être utilisé d'une mauvaise manière dans l'idolâtrie, ou bien ici, qui vient renforcer cette image d'un Dieu qui est roi, qui est Dieu, qui règne. Mais ce Dieu n'est pas seulement roi, il est aussi saint. Ces séraphins, ces êtres qui volent autour du trône, qui viennent symboliser la royauté, annoncent aussi la sainteté de Dieu. Il est saint. Non, il n'est pas saint. Il est saint, saint, saint. Comme si de le dire une fois ne suffisait pas à montrer combien Dieu est saint. Il n'est pas seulement saint, il est saint, saint, saint. Et puis ces séraphins ne sont pas seulement en train de louer, comme on a pu le faire tout à l'heure, en disant oui, on croit que Dieu est saint, on proclame que Dieu est saint. Mais justement, ils ne sont pas seulement dans la louange, mais dans la proclamation. Ils se l'annoncent les uns aux autres. D'un séraphin à un autre, ils se crient cette vérité, il est saint, saint, saint. Sont en quelque sorte les annonceurs, les messagers, les héros de la royauté de Dieu. Ils viennent devant lui proclamer qui est ce Dieu-là. Je pense que c'est aussi un exemple pour nous, finalement, dans notre vie en tant que chrétiens. Sommes-nous des personnes qui louons Dieu le dimanche, qui nous rassemblons pour nous annoncer les uns aux autres qu'il est saint? Ou sommes-nous aussi les messagers, les héros de qui est ce Dieu roi, ce Dieu saint? Est-ce que nous aussi on va le proclamer, soit verbalement à nos amis, nos voisins, ou soit simplement dans la manière dont nous agissons entre nous, dont nous agissons avec les autres? Sommes-nous aussi ces messagers de qui est Dieu, d'un Dieu roi, un Dieu saint, dans notre manière d'agir, dans notre manière de parler de notre foi, de l'Église, de Dieu. Quel est le reflet que nous envoyons aux autres? Un Dieu qui est notre Dieu dans la poche, ou un Dieu roi, un Dieu saint? La sainteté de Dieu, dans ce texte, a une conséquence directe sur Ésaïe. C'est pas seulement une connaissance de savoir « Ah oui, Dieu est saint ». Non, il y a vraiment une conséquence dans comment Ésaïe réagit, comment il réagit à cette vision-là. Il y a un mois, on a vu ensemble le texte de l'Apocalypse, et je vous disais déjà à ce moment-là qu'à chaque fois qu'un personnage de la Bible, de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament, s'est trouvé face à Dieu, ils ont tous eu la même réaction, la crainte. Ils sont tombés à genoux, ils ont eu la crainte de se retrouver soudainement face à ce Dieu roi, à ce Dieu saint. Et Ésaïe a exactement la même réaction ici. Et nous, peut-être, si on s'imaginait se retrouver face à Dieu, quelle serait notre réaction? Est-ce qu'on réagirait de la même manière, ou est-ce qu'on se dira « chouette, on a vu Dieu ». Non, je pense que ça nous dépasserait largement la réaction qu'on aurait face à ce Dieu tout-puissant, ce Dieu saint. Pendant toute une période, j'ai pensé que si les personnages de la Bible avaient une crainte face à Dieu, c'est parce que tout à coup, ils se retrouvaient face à une vision qui les dépassait, avec peut-être de la lumière. Dans plusieurs textes, ici c'est le cas aussi, on nous parle de tremblements de terre, les murs qui tremblent, la fumée. Voilà, quelque chose de très impressionnant. Et pendant longtemps, j'ai pensé que c'était ça qui nous ferait comprendre la grandeur de Dieu et qui nous pousserait à la crainte, à craindre Dieu, parce qu'on se retrouve face à une vision tellement impressionnante. Un peu comme finalement quand on va au cinéma 3D et qu'on se retrouve avec des grosses images, du son de tous les côtés, les sièges qui tremblent, on est plaqué au fond du siège et on se dit « waouh, c'est impressionnant ». J'imaginais un peu de cette manière-là. Mais en fait, dans notre texte, c'est pas du tout ça qui impressionne Ésaïe en premier. C'est pas ces effets 3D, ce son, ces effets audiovisuels qui l'impressionnent. Non, Ésaïe même explique pourquoi il craint. Il dit « Je suis perdu. Malheur à moi, je suis perdu, car j'ai les lèvres impures. Et j'habite au milieu d'un peuple impur. Et maintenant, j'ai vu le roi qui est saint. » Sa première crainte, c'est pas face à la vision qu'il a de Dieu, qui est une vision illuminée, une vision claire, une vision belle. Sa première crainte, c'est face à la vision qu'il a de lui. Une vision sombre, une vision triste, de réaliser qu'il est impur, qu'il est pécheur, et que face à Dieu, cette impureté ressort d'autant plus vivement. Souvent, on vit avec nos défauts, on vit avec nos faiblesses, on vit avec ce qu'on sait de nous qui n'est pas très beau, pas très luisant, mais qui fait partie de nous, alors on vit avec cela. Et puis, c'est quand on se retrouve face à quelque chose de plus beau, de plus parfait, peut-être l'un de nos frères et sœurs ici de l'Église qui agit différemment, on se dit « Ah ouais, ce que je fais est vraiment moins beau que ce que lui fait. » Puis ça vient un peu en contraste. Comme quand on nettoie quelque chose et puis on se rend compte tout à coup qu'en fait on nettoie notre voiture par exemple et puis on se rend compte qu'en fait elle était blanche sous la couche grise. Puis tout à coup on réalise combien c'était sale avant. Mais j'ai un peu l'impression que Ésaïe se retrouve face à cette même réaction. De tout à coup réaliser oh, je suis tellement pécheur au fond, j'ai tellement de propos impurs, de lèvres impures en moi. Et face à Dieu ça vient en contraste très fort. Mais heureusement, Dieu est bon. Dieu est bon et ne se coupe pas d'Ésaïe en disant « Oui, tu es très pécheur et moi je suis très saint, donc on va en rester là. » Heureusement, et on est reconnaissant pour nous aussi, sinon on serait bien seul sur cette terre. Dieu offre aussi une solution à Ésaïe. Et puis cette solution, elle nous est présentée sous cette image d'un séraphin qui vient prendre une braise sur l'autel et puis vient toucher les lèvres d'Ésaïe pour le purifier. « Ésaïe est pardonné et purifié par Dieu. Et puis immédiatement suit un appel de Dieu. Un appel de Dieu à une mission pour Ésaïe. Pas besoin pour Ésaïe d'un temps de purification plus longue parce qu'il était tellement pécheur, non. En un instant, Dieu purifie et envoie Ésaïe. Mais il l'envoie d'une manière assez étonnante, je trouve. La première question de Dieu, c'est « Qui enverrai-je ? Qui marchera pour nous ?» Comme si, franchement, Dieu ne savait pas qui il voulait envoyer, comme s'il ne savait pas qui était disponible pour répondre à cette mission, comme s'il avait un doute, qu'il se demandait. Non, moi j'aime beaucoup cette phrase où on voit que finalement Dieu laisse un choix. Dieu n'est pas justement un roi imposant qui dit « Toi, tu vas aller pour cette mission, toi, tu vas aller faire cette mission-là, toi, ce sera plus tard. » Non, Dieu nous ouvre un choix, nous ouvre une possibilité. Qui enverrai-je ? Qui peut remplir cette mission ? Et puis ce sont les hommes, les femmes, c'est à nous de choisir « Oui, moi, je veux remplir cette mission, je veux accepter cette mission-là. » Alors on le fait tous plus ou moins vite, selon la période de vie dans laquelle on est, selon aussi quel appel Dieu nous envoie, on y répond plus ou moins vite. Souvenez-vous Moïse face à l'appel de Dieu. Combien de barrières, d'obstacles il a mis à cet appel de Dieu ? Oui, mais je ne suis pas assez doué en parole. Oui, mais est-ce que je suis à la hauteur ? Est-ce que c'est vraiment moi qui dois délivrer le peuple ? Est-ce que tu es sûr, Seigneur ? Combien de questions il a posées à Dieu avant de finalement accepter la mission que Dieu lui confiait. Souvenez-vous aussi Jonas. Combien de fuites, combien de détours avant de réussir à accepter la mission que Dieu confiait. Et maintenant, Ésaïe, qui face à une question de Dieu, répond « Moi, j'y vais. Moi, je suis là, j'y vais. » Et pourtant, c'est étonnant parce que Dieu n'a pas dit encore quelle mission il avait à accomplir. Il a juste demandé qui va remplir cette mission. Mais Ésaïe ne sait pas quelle mission. Et il ne sera pas déçu par la suite de la mission à remplir. Il ne sera pas déçu. Et nous tous, probablement, en tout cas moi, je sais que ça a été mon cas aussi dans mon appel au ministère. Combien de barrières j'ai mises avant de finalement accepter cet appel-là, ça a pris du temps, ça a pris des années où Dieu me rappelait par moments, et si tu allais travailler dans l'église ? Et puis face à des obstacles, face à ce que les gens me disaient aussi d'inconvénients au ministère, je me suis détournée jusqu'à une période où apparemment j'étais assez prête pour entendre cet appel et pour l'accepter, et où Dieu aussi m'a montré ensuite qu'il pourvoirait à mes besoins, il m'a convaincu, il m'a donné des arguments qui m'ont donné la confiance d'accepter cet appel. Mais ça a mis du temps, j'ai mis des barrières. Et chacun d'entre nous, nous avons probablement en tête les différents appels que Dieu nous a confiés, ceux que nous avons acceptés, ceux que nous avons refusés, ceux qui sont en attente. Nous sommes tous en chemin avec Dieu. Comment faire pour le suivre mieux ? Comment faire pour répondre à son appel plus à la manière d'un Ésaïe qu'à la manière d'un Moïse, plus en disant « Me voici, envoie-moi » qu'en disant « J'arrive ». Pour ma part, je trouve aussi frappant chez moi combien j'arrive à décaler mon implication avec, par exemple, tous les réfugiés qui arrivent, les migrants qui arrivent. Je reconnais, je sais l'importance, je vois la cause humaine essentiel, vital qui se déroule ici, et pour autant c'est tellement difficile de sortir d'un train-train quotidien, c'est tellement difficile d'oser sortir de nos barrières, d'oser sortir de notre confort pour aller rejoindre d'autres et pour accepter l'appel de Dieu. Moi je bataille encore avec aujourd'hui sur beaucoup de domaines différents. Et puis au milieu de cette vision majestueuse, au milieu de ce bel appel que Dieu lance à Ésaïe, de cette belle réponse d'Ésaïe, eh bien le texte change, le ton change complètement lorsque Dieu annonce à Ésaïe quel est l'appel qu'il lui confie finalement, l'appel qu'il vient d'accepter. Et on va lire la suite du texte. Parce qu'on aime bien s'arrêter au verset 8. Jusque-là, le texte est beau, c'est encourageant, mais le chapitre est entier et la suite du dialogue entre Dieu et Ésaïe forme un tout. Et ça ne serait pas juste de s'arrêter là à ce qui nous plaît beaucoup, à ce qui nous rassure, à ce qui nous réconforte, sans voir la suite. Alors lisons encore la fin du chapitre, les 5 derniers versets, à partir du verset 9. Le Seigneur me dit, « Va et dis à ce peuple, vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Oui, vous aurez beau voir, vous ne percevrez rien. Rends ce peuple insensible, ferme-lui les oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie pas de ses yeux, pour qu'il n'entende pas de ses oreilles, pour qu'il ne comprenne pas et qu'il ne puisse pas retourner au Seigneur afin d'être guéri. » Je demandais alors, jusqu'à quand, Seigneur ? Et il me répondit, jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants, qu'il n'y ait plus personne dans les maisons, et que ce territoire soit réduit en désert et dévasté. L'Éternel enverra ses habitants au loin, et le pays sera à l'état d'abandon. S'il y subsiste encore un dixième du peuple, à son tour, il sera embrasé par le feu. Mais comme un térébinthe ou comme un chêne qui conserve sa souche quand il est abattu, la souche de ce peuple sera une semence sainte. Beaucoup plus difficile la suite de ce texte, hein, beaucoup plus rude pour le peuple, même pour nous, de lire ce texte, même des millénaires après. Ça vient quand même frapper au fond du cœur. Et pour Ésaïe, probablement que ça a été aussi un choc d'entendre ce texte-là. Déjà pour lui, parce qu'il fait partie de ce peuple qui est condamné. Pour lui, pour le peuple qu'il aime, dans lequel il a probablement une famille, des amis, des voisins, des gens qu'il aime. Et puis, c'est d'autant plus un choc que cette vision a été reçue l'année de la mort du roi Ozias, nous dit le texte. On sait que ça a été en 740. Et à une période surtout, parce que l'année n'est pas forcément intéressante, mais à une période où le peuple vivait une période très fructueuse, très agréable, où il n'y avait pas d'ennemis directs, le peuple n'était pas menacé par un voisin ennemi avec une grande superpuissance, non, le peuple avait une bonne défense militaire, tout se passait bien au niveau des denrées alimentaires, il n'y avait pas de sécheresse, pas de famine, c'était une belle période. Et Dieu qui vient annoncer « le pays va être dévasté », c'est inimaginable. C'est aussi inimaginable que si on nous disait « la Suisse va être dévastée ». On a du mal à l'imaginer. La Suisse va bien. On a tout ce qu'il faut à manger, on a un beau climat, un peu trop de pluie, mais bon, on s'accommode. Voilà, c'est le plus gros de nos soucis aujourd'hui, un peu trop de pluie. La Suisse va être dévastée. C'est la même annonce que ce que Dieu dit à Ozias, à Ésaïe. Et puis, de même, Dieu annonce l'endurcissement du peuple, le peuple qui va s'endurcir jusqu'à ne pas pouvoir revenir au Seigneur. Quel message difficile à recevoir. Et puis, c'est la mission que Ésaïe a, d'aller auprès du peuple et de dire tout ça. Quelle mission difficile d'aller annoncer tout cela. La réaction d'Ésaïe est assez frappante. Ésaïe ne dit pas à Dieu « Arrête, c'est pas possible ». Arrête de me charrier, je te crois pas, ça peut pas arriver comme ça. Tu me fais une blague. Non, Ésaïe, malgré son contexte, comme nous, notre contexte suisse par exemple, prend Dieu au sérieux. Ce que Dieu annonce, il n'y a pas un doute, c'est ce qui va arriver, c'est ce qui va se réaliser. La question ne se pose même pas de discuter un peu avec Dieu pour savoir si vraiment il ne s'est pas trompé de destinataire ou si c'était vraiment pour le bon peuple qu'il a annoncé cela. Non, ce que dit Dieu est sérieux, ça va se réaliser. Et nous, combien de fois osons-nous prendre Dieu à la légère dans ce qu'il annonce ? Osons-nous nous dire « Ah, il me semble que j'ai peut-être compris, entendu cela, mais est-ce que vraiment ça va se réaliser ? Est-ce que vraiment c'est ça que Dieu me dit ?» Parfois même lorsque nous avons des convictions vraiment de ce que Dieu nous dit, mais c'est trop difficile d'apporter ce message-là, ça nous demande trop de courage, ça nous demande trop de sortir de notre confort, de nos barrières, donc on préfère laisser couler. De toute façon, comme on est les seuls à l'avoir entendu, personne ne saura qu'on a laissé couler. Je parle d'expérience, bien sûr, ça n'arrive qu'à moi, je pense. Mais je sais que ça m'est arrivé parfois d'entendre clairement ce que Dieu me disait, d'aller voir une personne, de lui dire certaines choses. Et dans ma lâcheté, dans ma peur, dans ma crainte de sortir de ma zone de confort, j'ai préféré me dire, bon, Dieu appellera quelqu'un d'autre peut-être pour lui annoncer, ou peut-être que j'ai mal entendu, peut-être que c'est ce que moi je pense, mais ça ne vient pas de Dieu. Et puis à d'autres occasions, j'ai aussi eu la chance de vivre du courage qui venait de Dieu, et d'oser dire certaines choses, ou d'oser croire certaines choses qui se sont ensuite réalisées, et qui donnent du courage, qui nous aident à apporter un certain message. Mais combien de fois nous osons prendre Dieu à la légère, ne prendre pas au sérieux, se dire « non, c'est pas possible que Dieu me dise ça, c'est pas possible », ou alors il utilisera quelqu'un d'autre, et on laisse de côté la mission de Dieu, l'appel de Dieu. Mais Ésaïe, lui, rentre dans cette mission. Il rentre dans cette mission et sa seule question, c'est « mais jusqu'à quand ?» Toute cette dévastation, toute cette détresse qui est annoncée, jusqu'à quand ? Ésaïe ne dit pas « d'accord pour le peuple, mais moi, tu m'as purifié, moi, je ne suis pas si mal que ça, peut-être tu peux m'épargner. » Non, il s'associe au peuple, d'une part, il fait partie de ce peuple, ce qui est annoncé va lui arriver aussi, et il l'accepte parce qu'il prend Dieu au sérieux. Sa seule question, c'est jusqu'à quand ? D'accord, Seigneur, tu nous juges, tu nous condamnes, mais ne permets pas que ce soit trop long pour nous, pour mon peuple, pour moi. Ésaïe ne revient pas en arrière sur son appel. Il l'accepte, mais demande une certaine bienveillance de la part de Dieu. Et puis cette mission que Dieu donne à Ésaïe est certes très sombre, très négative, mais il y a aussi à la fin une note d'espoir qui permet que Ésaïe continue d'espérer, qui permet que le peuple continue d'espérer. Et comme nous aussi aujourd'hui, on a cette note d'espoir qui n'est pas moindre, qui est celle du retour de Jésus. Malgré ce qu'on vit aujourd'hui, malgré ce qu'on peut voir sur cette terre, malgré les blessures qu'on se fait les uns aux autres à cause du mal, eh bien on a cette note d'espoir aussi. Tout comme à la fin de la vision reçue par Ésaïe, il y a une note d'espoir. À la fin de notre Bible aussi, il y a une note d'espoir, celle que nous avons lue et étudiée ensemble il y a un mois dans l'Apocalypse. Cette note d'espoir que Jésus, le grand roi, reviendra et viendra rétablir un royaume de paix, d'amour, un royaume où il n'y aura plus tout ça, toutes les blessures, tous les villes dévastées, les gens, les décès, les maladies, toutes ces choses-là ne seront plus au retour de Jésus. Et en attendant, quel est l'appel que Dieu nous fait à chacun ? En attendant, quel est l'appel que Dieu vous a fait, ou les appels que Dieu vous fait ? Je ne crois pas qu'il y ait un appel à un service, mais je pense que Dieu nous appelle par période aussi à différentes choses, à s'investir dans un certain domaine, puis dans un autre, et peut-être pendant toute sa vie dans un seul domaine. Dieu fait en fonction aussi de nos dons, des circonstances de notre vie, mais Dieu nous appelle chacun. Quel est l'appel que vous avez reçu de Dieu ? Et quelle est la réponse que vous avez donnée à cet appel ? Me voici, envoie-moi, ou j'arrive ? Quelle réponse avons-nous donnée aux appels que Dieu nous a lancés ? Alors que le royaume de Dieu s'approche, que Jésus promet de revenir, prenons au sérieux ces appels de Dieu. C'est notre mission sur terre, l'appel que Dieu nous confie. Notre mission pour être comme des Ésaïe qui répondons rapidement à l'appel de Dieu et moins comme des Moïse ou des Jonas qui mettons un certain temps. Soyons attentifs aux appels de Dieu. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous aimerions exprimer notre reconnaissance parce que tu nous envoies des appels, tu nous utilises, Seigneur. Toi, le Dieu roi, le Dieu saint, tu travailles avec nous, tu collabores avec nous pour accomplir une partie de ton royaume ici sur terre. Et nous voulons aussi ce matin te demander pardon, Seigneur, pour toutes les fois où notre réponse a été « j'arrive » et où notre action s'est fait attendre. Nous n'avons pas tout de suite rempli la mission, nous ne l'avons pas rempli du tout. Bien, Seigneur, nous implorons ton pardon ce matin, avec la conviction et la reconnaissance que tu pardonnes, Seigneur. Comme tu as pardonné Esaïe, tu nous purifies aussi. Donne-nous la force, Seigneur, donne-nous le courage d'entrer dans ta mission, d'être des Esaïe qui répondent rapidement, qui répondent avec motivation et qui acceptent les missions que tu donnes. Oui, Seigneur, équipe-nous de ton esprit, de ton amour, de ton courage, de ta force, pour que nous puissions rentrer dans tes missions, dans les appels que tu nous lances. Amen.